L'Eurovision, l'un des plus gros shows du monde, plus de 40 pays, près de 200 millions de téléspectateurs, unis le temps d'une soirée de fête et de musique. Et ça fait 67 ans que ça dure, mais que serait l'Eurovision sans ses fans? Ça y est, c'est le grand jour, on saura ce soir qui remportera l'Eurovision 2023. Sur place, des milliers de fans qui pour beaucoup ont fait le déplacement depuis l'étranger. Il y a parmi eux Laurent et Fabien. Ils ont passé la semaine à Liverpool et ce n'est pas leur première Eurovision. Alors, qu'est-ce qui les pousse à vivre le moment sur place? Ils nous racontent tout à Euromania.
Moi, mon premier Eurovision, c'était il y a 20 ans, tout pile, en 2003. C'était à Riga, en Lettonie. Première fois et seule fois que ce pays organisait l'Eurovision.
En 2015, j'étais allé pour la première fois à un concours Eurovision en tant que spectateur à Vienne. Mon premier Eurovision en tant que journaliste accrédité, c'était en 2016 à Stockholm. En plus, cette année-là, la France était représentée par Amir, il y avait une super dynamique, donc c'était un petit peu une joie d'assister à cette renaissance pour la France au concours Eurovision. C'était donc très très chouette à vivre. Donc 2016, ça a été vraiment une sorte, on va dire, de montée en puissance où j'ai, là pour le coup, j'ai écrit vraiment plein d'articles sur les répétitions, sur les candidats en vue, les favoris, les pronostics, etc.
En 2003, il n'y avait pas de site de vente de tickets sur Internet, tout se faisait par téléphone ou fax. J'avais réussi à choper une place pour la finale, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul show, qu'il fallait que je retire dans une agence de voyage du centre de Riga. Et je ne regrette pas, c'est de très bons souvenirs.
Ce qui me frappe toujours quand j'arrive dans une salle de presse à l'Eurovision, c'est un petit peu l'entrée dans la bulle Eurovision. Et la bulle Eurovision, c'est cet espace où pendant une dizaine de jours, je vais être baigné et avec l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe au monde que ce concours de chansons.
En 2003, le pays était indépendant depuis 91, donc ça faisait 12 ans, ce qui est rien. Il y avait des travaux partout. La salle avait été construite 2 ans auparavant, mais était quasiment toujours en travaux. La route était à peine goudronnée. Oui, tu sentais que c'était un gros truc pour eux. Ça leur a coûté un fric fou. Ils ont failli arrêter parce qu'ils dépassaient les budgets et sans l'aide de d'autres télévisions suédoises et estoniennes notamment, ils n'auraient jamais pu l'organiser. Mais ça leur a développé des infrastructures, des routes, de la fibre, des téléphones. Mais oui, j'étais très fier d'organiser le show.
C'est comme un journaliste sportif qui couvre la Coupe du Monde. Ce que j'apprécie aussi à l'Eurovision, c'est qu'on revoit, on recroise tous les ans des confrères étrangers, des têtes qu'on ne voit que quelques jours voilà, dans l'année et où on se dit, ah bah, ça y est, voilà, là, on est à l'Eurovision. Et moi, ce que j'aime à l'Eurovision, c'est aussi quand des artistes viennent en salle de presse. Parfois, c'est complètement impromptu, c'est même souvent impromptu. On est en train de travailler sur nos ordinateurs et puis d'un coup, on entend des notes de musique, un peu de remue-ménage. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, soit on a des Moldaves, comme les candidats de l'an dernier, qui viennent complètement ambiancer la salle. Ou alors Conchita Wurst, des anciens, des figures de l'Eurovision qui viennent se rappeler à notre bon souvenir.
Moi, j'ai un souvenir forcément ému par mes deux Eurovisions à Kiev, en Ukraine. Le premier en 2005 et le deuxième en 2017. Voilà, oui, ça me fait mal au cœur de voir cette ville régulièrement sous les bombes alors qu'on y a fait la fête, on y a bien mangé, on y a bu, on a chanté, dansé. Voilà, donc ça, c'est un peu émouvant. Et à Copenhague, au Danemark, la salle était à Dash, au fond du port, très mal desservie. Il fallait marcher les plombes. En Israël, c'était très sympa, mais c'était le bordel à israélienne. Vienne, c'était parfait parce que c'était au centre-ville. On faisait tout en tramway, à pied. Malmö, c'était très bien aussi parce qu'en Suède, c'était vraiment une petite ville. C'était vraiment à taille humaine.
en 2016 à Stockholm. Moi, je me souviens aussi de l'Euroclub. Donc l'Euroclub, c'est cette boîte de nuit où se retrouvent, je crois qu'il y a des délégations, les accrédités. Et cette année-là, ils avaient couplé avec l'Eurofan Café. Tout le monde se mélangeait un petit peu. Voilà, il y avait de l'espace. Et c'est vrai que la dernière soirée, donc c'était juste après la finale, on va décompresser, on va boire un verre. Je me souviens, je dansais juste à côté du candidat polonais Michael Spak.
Et je me souviens que c'était Malmö, ça m'avait marqué. L'Euroclub où tout était open bar et gratuit. Et on n'a jamais retrouvé ça, évidemment, depuis. Je me souviens de la sortie de l'Euroclub après la finale à 4h30 du matin ou 5h du matin. Il faisait déjà jour et c'était assez magique.
Cette année, le budget pour se rendre à l'Eurovision, c'est le plus élevé depuis que je couvre l'Eurovision. Il faudrait que cette surenchère cesse un petit peu. Maintenant qu'il y a une sorte de regain d'attention internationale pour l'Eurovision, je n'ai pas envie que ça vire à un rendez-vous de privilégié.
Il y a 20 ans, même si les prix sur place n'étaient vraiment pas chers du tout, c'était vraiment donné. Et donc c'était beaucoup moins gros que maintenant, c'était plutôt une fête de village qu'un Eurovision tel qu'on le connaît maintenant.
Je dirais que Liverpool, c'est les tarifs hôteliers et notamment des tarifs côté Airbnb qui sont effarants. Quand on est pour 3 jours sur du 10 000 euros, là on marche sur la tête.
C'est plus grand, il y a plus d'argent, il y a des sponsors partout. Moi je trouve que ça n'a pas perdu son côté bon enfant. Ça a perdu son côté un peu chiant, tout le monde assis, on applaudit sagement, on écoute, on réagit pas dans la salle. Je comprends que le prix des places, surtout, puisse rebuter plein de gens. Cette année à Liverpool, c'est même du grand n'importe quoi. C'est un peu comme une Coupe du Monde. Quand t'as les moyens, t'es content d'avoir une place pour la finale, parce que c'est tellement rare que les gens se battent pour les avoir. Et quand on a une, t'es content. C'est vraiment un budget, mais ça en vaut la chandelle.
Que de beaux souvenirs. Merci à Laurent et Fabien pour toutes leurs anecdotes. Je vous laisse pour la dernière ligne droite avant la finale. On croise des doigts très très fort pour la Zara. Et d'ici là, vive la musique, vive la fête et vive l'Eurovision.